en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Yvon Lemao, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, au cœur même de l'Institut de France, pour une émission en habit vert consacrée à vos travaux, à vos recherches. Alors, je reprécise pour nos auditeurs que vous êtes écophysiologiste, directeur de recherche au CNRS à Strasbourg, président du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, le MEDAD. Nous en parlerons également au cours de cette émission. Vous êtes membre du comité de veille écologique à la Fondation Nicolas Hulot et également membre de l'atelier sur la biodiversité au Grenelle de l'environnement, et puis également depuis 2005, responsable du module d'enseignement, expertise scientifique et décision publique à l'ENA, l'École nationale d'administration, bien sûr. Et puis, bien sûr, j'allais l'oublier, et pourtant c'est très important, membre de l'Académie des sciences. Nous allons bien sûr revenir en détail sur l'ensemble de vos activités. Alors, comme un de vos confrères ici à l'Institut, Yann Arthus Bertrand, photographe, membre de l'Académie des Beaux-Arts, donc comme lui, vous avez pour objectif de sensibiliser le grand public à la biodiversité. Et vous râlez d'ailleurs un peu à ce sujet parce que nous, les médias, communiquons volontiers sur le réchauffement climatique, mais assez peu sur la préservation de la biodiversité. Alors vous dites à ce sujet que les financements sont dérisoires parce que cela ne fait pas sérieux. Pensez-vous alors que la population ne se sent pas concernée par la biodiversité, alors que pourtant de nombreux documentaires comme Le peuple migrateur, où vous étiez d'ailleurs le conseiller scientifique de ces documentaires, ou La marche de l'empereur, et également Un jour sur Terre, ont eu du succès en salle?
Je crois qu'au contraire, la société a de plus en plus conscience de ce problème, et il suffit de voir par exemple l'impact considérable du pacte écologique de Nicolas Hulot sur les dernières élections présidentielles. Donc c'est pas, à mon avis, du côté de la société qu'est le problème. Et d'ailleurs, dans une situation où actuellement on se plaint qu'il y ait une désaffection des jeunes pour les carrières scientifiques, ce n'est pas vrai du tout pour ce qui concerne l'écologie, pour ce qui concerne l'environnement. On croule sous les demandes. Non, le problème est plutôt à l'intérieur de la communauté scientifique. Vous savez, ça a toujours existé. Les communautés scientifiques qui tiennent le haut du pavé à un moment donné, c'était le cas pour la nutrition. Aujourd'hui sinistrée, c'était son cas à l'époque où Lvov, Jacob et Monod essayaient de développer la biologie moléculaire. Ils n'avaient pas de financement. Ils étaient logés dans des conditions difficiles à l'Institut Pasteur. Et il a fallu un politique, et pas n'importe lequel, le général de Gaulle, pour dire il faut, bien conseiller certainement, pour dire il faut développer la biologie moléculaire, et c'est pour ça, probablement pour cette raison, que la biologie moléculaire s'est développée en France avant de se développer dans d'autres pays, et que pour une fois, on n'a pas attendu un prix Nobel américain pour développer cette discipline.
Et les trois personnes que vous avez nommées sont des Nobel. Est-ce que vous pensez que le documentaire est la meilleure manière de toucher le grand public? Vous avez travaillé comme conseiller scientifique pour, bien sûr, donc, Le peuple migrateur que je venais de citer, et vous avez en préparation Les océans. Peut-être d'ailleurs que vous pourrez nous en parler. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière de toucher le grand public, le documentaire?
C'est une des manières. Je pense que l'art est absolument essentiel pour faire prendre conscience de ces problèmes environnementaux, du sérieux, et notamment pour ce qui concerne la surexploitation des ressources marines. C'est un des domaines où, pour reprendre le titre du syndrome du Titanic, du livre de Nicolas Hulot, on va dans le mur. On va dans le mur, c'est certainement un des problèmes les plus cruciaux que celui de cette surexploitation des ressources marines. Mais il faut bien voir que ce n'est pas la seule façon d'intervenir. Les livres, comme celui de Michel Gauthier-Claire, Pôle en péril, c'est une autre manière très importante. Et puis, on a surtout besoin d'expertise et de recherche. Regardez, par exemple, le fait qu'on se soit lancé de manière aussi inconsidérée dans un développement des agrocarburants, au-delà même de ce qui était demandé par l'Europe. La France s'est lancée à corps perdu. Visiblement, aujourd'hui, on commence à le regretter et à se dire qu'il aurait fallu faire une évaluation globale au préalable.
Alors revenons au documentaire que vous avez en préparation. Alors peut-être qu'il n'est plus en préparation, peut-être qu'il a fini d'être tourné. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le titre, c'est Les océans.
Les océans de Jacques Perrin, dont le tournage est en cours.
Le tournage est en cours.
Pour une sortie à la fin de l'année prochaine. Bon, évidemment, les films de Jacques Perrin sont des films qui sortent du documentaire habituel, qui vont beaucoup plus loin. Ils cherchent à obtenir des images complètement nouvelles. Et il y a un message aussi très fort derrière. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Jacques Perrin et tous ses collaborateurs et collaboratrices.
Et justement, ce rôle de conseiller scientifique, en quoi ça consiste ?
Il y a deux types de films. Il y a le film où on va utiliser une espèce animale qu'on va mettre en avant en essayant de faire pleurer dans les chaumières de toute la planète. Et puis, il y a une autre manière qui est d'essayer de faire passer un message. Et ça, c'est le souci principal de Jacques Perrin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler, parce qu'il y a... C'est lui qui décide, bien sûr. C'est lui qui fait son film. Mais je crois que les discussions sont enrichissantes de part et d'autre.
Alors, parmi vos études, vous aviez bien sûr travaillé sur les manchots, qui a valu aussi un documentaire, où de même vous étiez conseiller scientifique. Manchots sous haute surveillance, qui était donc sorti en 92, il me semble. Et donc, c'est une observation qui a duré 3 ans. Alors vous, en tant que conseiller scientifique, est-ce que vous étiez aussi, pareil, sur le terrain, en observation pendant 3 ans avec eux ?
Bien, bon, d'abord... Ce que je tiens à dire, c'est que c'est un travail d'équipe. On ne pourrait pas atteindre ses objectifs sans ce travail d'équipe, très, très pluridisciplinaire d'ailleurs. Et donc, pour ce qui concerne manchots sous haute surveillance, c'était une première étape. Nous avons été les premiers à identifier électroniquement des animaux dans leur milieu naturel. C'est une grande firme internationale qui a inventé, dans le cadre d'un projet européen d'ailleurs, ce dispositif d'identification électronique avec un transpondeur. Alors un transpondeur, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite étiquette électronique sans batterie que l'on peut introduire sous la peau. C'était prévu pour l'agroalimentaire, en fait, pour éviter que le porc ne mange trop, qu'il fasse trop de graisse. Et donc, lorsque le porc s'approche de sa mangeoire, la mangeoire se referme ou ne s'ouvre pas s'il a trop mangé. Et à partir de là, ça m'a donné l'idée, pour la première fois, de suivre des animaux dans leur milieu naturel. Alors, ça a été possible avec les manchots royaux, dans la mesure où on peut les identifier sur des points de passage. Alors, au départ, un point de passage obligé, on avait grillagé, mais c'était une première étape. Ensuite, tout naturellement, car c'est toujours notre souci de ne pas intervenir, de modifier le moins possible, ça a été d'introduire des antennes sur leur lieu de passage habituel. Et donc là, il n'y a aucune modification de leur environnement. Et donc, ces premiers chercheurs de l'équipe à initier cela, ça a été Michel Gauthier-Claire. Et donc, cela aboutit à un travail qui a eu beaucoup d'impact, parce qu'on a montré que la méthode précédente, qui consistait à suivre les oiseaux par des bagues à l'aileron, avait un impact délétère très important sur leur succès reproducteur.
Ah d'accord, ça arrivait sur la reproduction.
Par la gêne hydrodynamique. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque les ressources sont plus difficiles à trouver, le fait pour l'animal d'avoir une bague à l'aileron constitue un handicap sérieux.
Est-ce que le documentaire La Marche de l'Empereur s'est inspiré de ce propre documentaire Manchots sous haute surveillance ?
Non,
pas spécialement.
La Marche de l'Empereur, c'est basé sur les travaux français. Mais vous savez, la science a continué à progresser depuis. Par exemple, dans La Marche de l'Empereur, il y a un aspect qui peut émouvoir le public. Je parlais des chaumières tout à l'heure. On voit à un moment donné les mâles qui apparaissent surexcités. Vous savez que le mâle assure la totalité de l'incubation chez le manchot empereur. Et le commentaire, c'est « les femelles sont de retour, évidemment en retard ». Je vous le donne en mille, évidemment en retard. Et c'est pour ça que les mâles sont surexcités. Alors, ce que nous avons appris depuis, nous ne sommes pas à l'origine de cette interprétation.
D'accord.
Je le précise tout de suite. Et ce que nous avons découvert depuis, c'est qu'en fait, en se serrant les uns contre les autres, ce qui est absolument indispensable pour qu'ils réduisent leur déperdition d'énergie, donc l'utilisation de leurs réserves corporelles, puisqu'ils jeûnent pendant 4 mois, de ce fait, ils induisent une augmentation des températures. Ça devient un milieu tropical, puisque la température, au bout de 20 à 40 minutes, comme nous l'avons montré, atteint, voire dépasse 35 degrés.
Donc ils font une couveuse à eux seuls.
Oui, c'est le même principe, si vous voulez, que vous retrouvez au ski, dans un téléphérique, avec les anoraks bien couverts. Bon, très rapidement, on a très chaud. Et c'est le même principe, et donc, ces oiseaux bien isolés, serrés les uns contre les autres, au bout d'un temps très court, créent cet environnement tropical. Et en fait, ils se séparent les uns des autres, dans la tortue, à partir du moment où cette température de 35, 37 degrés a été atteinte. Et donc, contrairement à l'idée que l'on avait, qui est dans ce film et dans beaucoup d'autres ouvrages jusqu'à présent, où ces animaux restent bien au chaud pendant des jours, voire des semaines, non. Au bout de 20, 40 minutes, en moyenne, ils se séparent. Et ainsi de suite.
Alors restons un petit peu sur la vie des manchots. Au mois de février, donc, il y a eu le GIEC qui, tous les trois mois, rendait un compte-rendu sur l'état du réchauffement climatique et les impacts du réchauffement climatique sur Terre. Un article est paru dans le Figaro et qui reprenait vos propos sur justement la menace du réchauffement climatique et donc l'espèce menacée des manchots. Et ce risque qu'il y avait en fait de cause à effet, puisque les femelles devaient partir 200 km plus loin pour aller rechercher de la nourriture et que c'était autant de temps pour et se nourrir et nourrir leurs propres petits. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, en fait, cet article, il se fondait sur un travail que nous avons publié au mois de février. C'est Céline Le Boeck, dans le cadre de sa thèse, qui a réalisé comme premier auteur ce travail, mais là aussi tout un travail d'équipe avec notamment des Norvégiens. Vous savez, on travaille beaucoup au plan international. Et on retrouve toujours les mêmes, ceux qui m'ont suivi depuis des années, que ce soit à la Tour du Vala ou à Montpellier. Et on va chercher l'expertise, et c'est la combinaison de toutes ces expertises qui fait qu'on peut faire une étude comme celle-là. Et que nous a appris cette étude ? Elle s'est fondée, cette étude, sur les antennes dont je parlais tout à l'heure, dans le sol. Il n'y a qu'à partir du moment où on identifie électroniquement. L'étiquette électronique, si vous voulez, elle est activée lorsque l'animal passe au niveau de l'antenne. Donc il faut vraiment qu'il passe à proximité de cette antenne. Et à ce moment-là, un champ électromagnétique produit par l'antenne fait que l'étiquette électronique renvoie un signal.
Une sorte de GPS en quelque sorte.
C'est un signal en modulation de fréquence qui est réceptionné également par l'antenne. C'est-à-dire que l'antenne émet et reçoit. Et à partir de là, on a l'identité de l'individu, du transpondeur et donc de l'individu. Et en 98, donc, vous voyez, ça fait 10 ans maintenant, nous avons mis des transpondeurs à environ 450 adultes, dont on ne connaissait pas l'âge, parce qu'il fallait bien partir d'une situation initiale. Et à partir de là, nous avons eu la survie de ces animaux. Et nous avons pu calculer la probabilité de survie en fonction d'une température déterminée à un endroit ou à un autre. Alors ce que nous avons appris, c'est ce que reprenait le Figaro, c'est que durant la période de reproduction estivale, un réchauffement de quelques dixièmes de degré introduit une détérioration dans le succès reproducteur. En fait, parce que les parents qui vont chercher la nourriture en mer doivent aller plus loin pour trouver des températures adéquates pour que leur proie soit abondante. Et qui plus est, ce que nous avons montré, c'est qu'en hiver, où les adultes, ça avait été montré par un chercheur aujourd'hui à Chizé, Charlie Bost, nous avions montré ensemble que les manchots royaux vont en Antarctique. Si vous voulez, vous avez un animal qui, Crozet, c'est à peu près la latitude de La Rochelle,
oui,
qui partirait de La Rochelle, si on fait l'équivalence, et qui irait à la nage se nourrir au nord de la Norvège.
Uniquement pour aller se nourrir.
Pour aller se nourrir, assurer sa survie. En hiver, parce qu'il n'y a plus de ressources à proximité des îles subantarctiques, du moins elles ne sont plus accessibles. Et donc les manchots royaux vont à un peu moins de 2000 km, c'est énorme, comme distance, chercher la nourriture, pour cela les poussins jeûnent. Et ce que nous avons montré dans ce travail qui a paru au mois de février dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, c'est qu'un réchauffement de 3 dixièmes de degré de la température dans cette zone diminue de 10% la probabilité de survie des adultes, avec un certain délai.
Je vous propose de marquer une courte pause, Yvon Le Mao. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de l'exposition à Monaco et puis également de vos diverses activités au sein de la Fondation Nicolas Hulot et au sein du Grenelle de l'Environnement. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie d'Yvon Le Mao. Dans cette deuxième partie d'émission, Yvon Le Mao, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par l'exposition qui a lieu actuellement au Musée océanographique à Monaco sur les glaces polaires, avec une question: que restera-t-il pour nos générations futures? Alors justement, je vous pose la question, Yvon Le Mao, que restera-t-il pour les générations futures si rien n'est fait, si on commence à faire quelque chose et si on fait quelque chose? Voilà les trois possibilités.
Cette exposition, elle montre d'abord l'importance des enjeux sur le climat, car encore une fois, l'enjeu climatique est majeur, mais aussi la biodiversité. Et en montrant à la fois les conséquences indirectes à long terme du changement climatique, mais le caractère urgent et immédiat des précautions à prendre par rapport à l'impact humain qui passe autrement que par le changement climatique. Introduction d'espèces invasives, par exemple.
Oui, nous invitons d'ailleurs nos auditeurs à écouter l'émission avec Michel Gauthier-Clerc à ce sujet. Venons-en, si vous voulez bien, au Grenelle et l'environnement et à la Fondation Nicolas Hulot. Alors, j'aimerais vous poser la question sur les quotas de pêche. À l'heure actuelle, on a interdit, il y a donc très peu de temps en France, la pêche du thon rouge. C'est une directive européenne. Et pourtant, en France, le ministre de la Pêche a remis en cause cette directive. Alors justement, lorsque l'on appartient à l'atelier biodiversité du Grenelle à l'environnement, est-ce que l'on doit de ce fait adopter la même position que le ministre de la Pêche, ou est-ce que vous avez une position différente sur cette question des quotas?
Écoutez, pour les scientifiques, il y a une évidence qui est que si on continue comme cela, il n'y aura plus de thon rouge dans la Méditerranée. Ben, ça, c'est une certitude.
Et ce n'est pas ce qu'a l'air de dire Michel Barnier, qui explique qu'il y a encore des réserves de thon rouge.
Alors c'est un autre problème. Le ministre, il doit défendre les pêcheurs, et c'est aussi un problème. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la société française. Les pêcheurs savent bien que le thon rouge est menacé. Le problème, c'est qu'ils ont des bateaux à payer. Ils doivent vivre. Il y a un emploi à préserver. Et donc je crois que une attitude responsable consisterait à dire ben, c'est la société qui doit faire un effort pour soutenir les pêcheurs, peut-être une reconversion partielle si les moyens à la mer pour pêcher le thon sont trop importants, ou pour se mettre en période d'attente le temps que la ressource se reconstitue. Vous voyez, la pêche à la morue, elle a été arrêtée il y a une vingtaine d'années. Il semblerait actuellement qu'on voit les premières prémices d'une remontée, mais à peine. C'est-à-dire qu'encore jusqu'à l'an dernier, on disait « les stocks ne remontent pas ». Vous voyez les conséquences à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas faire de confusion entre une espèce comme l'anchois, qui se reconstitue très vite parce que très prolifique, des poissons qui ont une faible longévité, mais très prolifique, et de l'autre côté, des poissons comme la morue ou le thon qui ont une très grande longévité. Et que dire de la légine, par exemple, qui commence à se reproduire à l'âge de 10 ans et pour laquelle on a laissé pendant un certain temps se développer une pêche illégale, mais heureusement, on est intervenu depuis.
Mais alors, juste pour revenir de petites minutes sur ce sujet, le ministre qui explique qu'il y a encore des réserves et que cette directive n'a pas lieu d'être, et vous, scientifique qui appartenez à cet atelier biodiversité du Grenelle à l'environnement, qui explique, comme vous venez de le faire, que ça sera vraiment la mort de cette espèce du thon rouge, qui a le dernier mot?
Écoutez, l'intérêt même des pêcheurs, je crois, puis de la société, c'est quand même de préserver cette ressource. Tenons la leçon de ce qui s'est passé pour la morue. On a sous-estimé l'impact de la pêche sur la ressource.
Mais vous avez une écoute de la part de ce ministre ?
N'étant pas un spécialiste du thon rouge, mais il y en a d'autres, je n'ai pas à être écouté par le ministre, mais il est clair que dans notre société, on a un petit peu le sentiment que ceux qui travaillent sur la biodiversité, sur l'écologie, ne sont pas aussi sérieux que les collègues d'autres disciplines. C'est peut-être ça le problème, finalement.
Alors, vous parlez d'écologie, ça me permet de faire la transition vers la Fondation Nicolas Hulot, à laquelle vous appartenez, puisque vous avez participé à la rédaction, il me semble, de la charte, c'est ça
du pacte écologique en tant que scientifique.
En tant que scientifique.
Il y a ce qu'on appelle le comité de veille, qui est un comité de scientifiques, et je peux vous assurer que... Au sein de la Fondation Nicolas Hulot, il y a des débats contradictoires qui n'ont rien à envier à ceux qu'on peut entendre dans les grandes sociétés savantes.
Puisque vous êtes à la fois au sein de cet atelier biodiversité du Grenelle de l'environnement et à la fois dans cette Fondation Nicolas Hulot, la Fondation Nicolas Hulot a fait des propositions qui ont été prises que partiellement par le Grenelle de l'environnement. Alors j'aimerais savoir quelle est votre position à vous, puisque vous appartenez aux deux.
Il faut bien comprendre que le politique, car c'est lui qui décide en dernier ressort, le politique subit des pressions. Je pense que le politique commence à comprendre, à l'heure actuelle, que la demande de la société est très forte dans le domaine de l'environnement. On le voit bien dans les causes, lorsqu'il y a une enquête de fait. Ce souci de plus en plus grand de la société pour l'environnement s'exprime. Bon, évidemment... Il faut peut-être ajouter qu'il y a peut-être moins de soucis quand l'intérêt personnel est en cause. On le voit dans un certain nombre de débats d'aujourd'hui. De l'autre, il y a évidemment, en face de ce qui peut être un intégrisme écologique, d'un extrémisme, il existe. Il existe d'autant plus qu'on ne donne pas les moyens à l'écologie scientifique de se développer. Je crois que le meilleur rempart contre un intégrisme, c'est le développement d'une discipline. Et pourquoi cette discipline ne se développe pas ? Parce que vous avez des disciplines, encore une fois, qui, probablement d'ailleurs à juste titre, estiment qu'elles ne sont pas suffisamment financées et qui voient d'un mauvais œil le développement d'une recherche sur ce qui est pour eux souvent les petites fleurs, les petits oiseaux. Et je pense par exemple, la biologie moléculaire, c'est devenu un outil irremplaçable aujourd'hui, même dans toutes les disciplines on en a besoin, c'est un outil, mais la communauté qui se sert principalement de cet outil a quand même une fâcheuse tendance à s'arroger la plus grande partie des moyens financiers dans la recherche.
Pour reprendre un exemple, par exemple sur la contribution climat-énergie, qui est une disposition que demandait la Fondation Nicolas Hulot, qui n'a pas encore été prise en compte par le Grenelle de l'environnement. Vous pensez là que c'est la Fondation Nicolas Hulot qui fait du zèle ou est-ce que c'est le Grenelle à l'environnement qui est plus que timide ?
L'explication est très simple. Dans le Grenelle de l'environnement, tout le monde est représenté. Il n'y a pas que la Fondation Nicolas Hulot et il n'y a pas que la Ligue pour la protection des oiseaux, il n'y a pas les autres associations, Greenpeace et autres. Et en fait, vous avez des contraintes qui s'expriment là à nouveau au niveau politique, car vous avez des intérêts financiers énormes. Vous avez et le Grenelle, c'est inévitablement la résultante de toutes ces pressions. Entre d'un côté, probablement la Fondation Nicolas Hulot et les autres associations sont en avance.
Donc vous le dire, en fait, c'est un problème de vitesse.
C'est un problème de vitesse. Sont en avance. On perçoit, enfin c'est ce que je vois en étant ici par exemple à l'Académie, dans le domaine de la biodiversité, je peux vous dire que la Fondation Nicolas Hulot est bien en avance sur une certaine partie de la communauté scientifique dans d'autres disciplines.
Vous travaillez également avec Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque vous êtes le président du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité. J'imagine que c'est encore valable. Vous êtes toujours président de ce...
Tout à fait. Donc le ministre étant M. Borloo et secrétaire d'État, Kosciusko-Morizet.
Ministre de l'écologie et du développement durable. Alors ça consiste à quoi votre travail de président du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité ?
Eh bien, ce conseil scientifique, il est composé des présidents des conseils scientifiques qui, en France, sont rattachés à l'environnement, par exemple, le Muséum, INRA. Oui, ça.
On vous commande des rapports ?
Et alors, on fonctionne aussi bien en autosaisine, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'intervenir dans un domaine déterminé, ou sur demande du ministre. Par exemple, dès 2006, on a dit « attention, il y a risque ». En développant les agrocarburants, comme je disais tout à l'heure, trop rapidement, sans avoir réalisé une évaluation globale. Et les faits, aujourd'hui, nous donnent raison. Donc, on avait alerté le ministre à l'époque là-dessus, comme on avait alerté le ministre du risque sanitaire d'attribuer uniquement aux oiseaux migrateurs le développement de certaines maladies aviaires. Et les faits nous ont donné là également raison, parce qu'il y avait des trafics de viande. Notamment, nous, ce qui nous avait frappé, c'est que le développement se fasse en sens contraire de la migration. Et donc, on a dit, attention, il y a un risque sanitaire énorme, parce que si on se trompe dans l'explication de ce phénomène, les conséquences sanitaires risquent d'être redoutables.
Est-ce que les fonctions politiques, ça vous attirerait? Le Grenelle de l'environnement, il y a une dimension politique. En tout cas, vous travaillez avec des politiques, vous travaillez avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Si l'on vous donnait le portefeuille, par exemple, de Jean-Louis Borloo, vous l'accepteriez?
Ah non, non, parce que je pense qu'il ne faut pas sortir de son rôle. Il faut faire ce pour quoi on est compétent. Donc la question ne se pose pas.
Vous n'êtes pas comme Nicolas Hulot qui, pendant un temps, se posait la question de savoir s'il allait endosser des fonctions politiques.
Il a hésité, mais je pense que bon, c'est tout naturel d'hésiter lorsqu'une proposition est faite, mais il me semble qu'il est resté dans son rôle.
Et quels sont vos projets futurs? J'imagine que, est-ce que vous avez déjà des choses bien établies pour les années à venir?
Dans un premier temps, retourner en Antarctique pour innover à nouveau dans le domaine des technologies qui permettent de mieux comprendre comment les animaux font face aux contraintes environnementales.
Donc ça, c'est pour la premier temps et deuxième temps.
Et aux conséquences de l'activité humaine. Ensuite, peut-être écrire, mais écrire pour le grand public.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir rendu visite. Vous souhaite bon voyage pour l'Antarctique. Et puis, j'espère une prochaine fois pour une prochaine émission. Merci beaucoup.
Bien sûr, au revoir.